16h-18h. Et si on partait ? Philippe Googler sur Europe 1.
Et si on partait ? Nous voyageons en Alsace jusqu'à 17h sur Europe 1. Après, nous partirons au Zimbabwe. Olivier, alors, côté gastronomie, c'est une terre bénie, l'Alsace, pour vous.
Évidemment, et on ne sait pas où donner de la fourchette.
Comme un pape.
Évidemment, parce qu'il y a du solide et du liquide, mais vous allez voir. Et puis tout ça se combine à merveille. Alors l'Alsace, évidemment, immanquable choucroute, ou une version que moi j'aime beaucoup, qu'on appelle la navroute. Et on remplace en fait le chou par du navet.
La navroute,
ouais. Et on traite le navet de la même manière, c'est-à-dire qu'il est fermenté et il est accompagné de la même, des mêmes garnitures qu'une choucroute. C'est un petit peu plus doux, c'est différent.
Ouais. Et si on mange son banquier, c'est une banqueroute.
Oui, c'est ça. Vous pouvez toujours essayer. Mais moi j'aime beaucoup la navroute. Alors, il faut savoir que la choucroute n'est pas originaire d'Alsace. C'est un plat aujourd'hui très emblématique de la région, mais il est originaire de bien plus loin que ça. On pense même qui serait originaire, que la choucroute serait originaire de Chine, venue avec les conquêtes de l'Est et petit à petit se rapprochant, envahissant, si on peut dire, toute l'Europe de l'Est et arrivant jusqu'en Alsace où elle s'est bien installée. On cultive le chou là-bas et le chou nouveau, lorsqu'il est cultivé, ensuite fermenté et présenté en choucroute, c'est un vrai grand moment. Le foie gras aussi, par exemple, une grande terre de foie gras, l'Alsace, et surtout le foie gras d'oie. Ce qui est beaucoup plus rare dans le sud-ouest, par exemple, donc à la période de Noël, on mange de délicieux foie gras d'oie en Alsace. Et puis, évidemment, tous ces plats familiaux au nom souvent un peu imprononçable.
Alors allez-y,
moi,
on
y en
vous
a un que j'aime beaucoup,
tournant.
C'est le bake-off.
Pas mal.
Bake-off, qui veut dire le four du boulanger. Alors, c'est ces plats traditionnels de village. En fait, la ménagère utilisait un plat en grès dans lequel elle mettait différentes viandes, un peu de légumes, du vin blanc. Et à la fin de la cuisson du pain, quand le boulanger en avait terminé avec son four, on apportait le plat et on mettait le plat dans le four qui commençait à baisser en température, puisque la cuisson du pain était terminée. Et on profitait de la chaleur résiduelle qui restait dans le four.
C'était de la chaleur gratuite.
Voilà, exactement. On allait travailler, quand on rentrait du boulot, le plat, il l'avait mijoté pendant quelques heures, ça. Il était cuit, il était confit, on le récupérait et on allait le manger. Ça, c'est le bake-off. Moi, j'adore, là, je suis un fou de tarte flambée, la fameuse flammekuche. Ah, ça, c'est merveilleux quand vous avez une bonne flammekuche, une pâte à pain très fine.
Alors, la flammekuche, c'est vraiment d'Alsace, parce qu'on en mange dans le Nord aussi.
Oui, des tartes flambées ou des variantes. On en mange en Allemagne aussi, on va dire, dans toute cette grande région. Ouais. Mais la flammekuche, qui est d'ailleurs assez cousine lointaine de la quiche. Oui, puisqu'on retrouve un peu les mêmes ingrédients. Il n'y a pas l'œuf dedans, mais l'esprit est un peu le même. Oui, alors ça, c'est plutôt côté italien, mais c'est la pizza alsacienne.
C'est la pizza germanique,
en fait. C'est une invention assez récente, d'ailleurs.
Oui, tout à fait. Oui, très probablement, puisque c'est de la pâte à pain, non levée. Alors, on remplace la sauce tomate de la pizza. Alors, moi, je fais un mélange fromage blanc et crème fraîche, pas que ce soit trop lourd. Un peu de lardon, évidemment, des oignons coupés finement, et il faut la cuire dans un four extrêmement chaud. Ça qui est le secret, parce qu'il faut que tout de suite cette pâte se mette à croustiller, et puis vous allez des petits blop de fromage blanc qui viennent au-dessus, on la mange en se brûlant légèrement les doigts avec un verre
d'eau. Vous décrivez super bien. Vous pouvez refaire le blop parce qu'on le voit.
Oui, les petits blop voyez, au-dessus.
Et au-dessus, avec l'accent, ça donne quoi,
Les spätzle, je vous en parlais tout à l'heure, ça aussi c'est fantastique, des petites pâtes en réalité qu'on fabrique en famille avec des pâtes aux œufs, et on étire la pâte, on en fait des filaments, on les coupe régulièrement tous les 3-4 cm, on les plonge dans l'eau pour une première cuisson, et ensuite on les fait rissoler dans du beurre de manière à les faire croustiller. Ça, c'est un accompagnement incontournable. Puis moi, j'ai un grand souvenir de cocoristing aussi, manger dans la famille Faller, qui sont des producteurs de vin absolument remarquables, et l'une des spécialités, c'était le coq au vin, mais au vin alsacien, donc au Riesling, une pure merveille. Et puis des souvenirs aussi de cuisses de grenouille, notamment grande spécialité d'un restaurant qui fut longtemps l'un des emblèmes de la gastronomie alsacienne, le Breisel à Strasbourg. On peut toujours manger ce plat là-bas. Le fils Eric Westermann continue à faire ses cuisses de grenouille aux saveurs vraiment remarquable.
Alors, est-ce qu'on mange un petit peu tout ça ? Vous avez des petits tuyaux ?
C'est les Windstube. En Alsace, vous allez trouver. C'est le nom des bistrots, de petits restaurants. Windstube, en fait, c'est là aussi, ça veut dire quelque chose. Vin, ça veut dire vin. Et Stube, c'était la pièce chauffée dans les maisons traditionnelles alsaciennes. Donc, c'était l'endroit où on allait se réchauffer, boire un peu de vin.
Où on est bien.
Où on est bien. On va discuter entre copains. Et là-bas, si vous êtes, on en parlait avec Jean-Bernard tout à l'heure, si vous êtes familier, un habitué, c'est vrai, vous avez droit gros Stammtisch. Stammtisch, c'est la table qui est réservée aux habitués, justement. Et on fait un Stammtisch, c'est se retrouver entre copains, casser la croûte, boire un verre.
Donc si on a un Stammtisch, ça veut dire qu'on est bien vu.
Ah oui, si vous avez un Stammtisch.
C'est un peu votre ronde serviette, en fait, qui est là, qui vous attend.
Et vous en avez plusieurs en Alsace?
Non, j'en ai pas, mais si j'habitais sur place, j'en aurais sans doute un, parce qu'on aurait
tous nos
adresses d'habitués, en fait, c'est ça. C'est
bien
génial.
Sûr. Et les Weinstuben, on en trouve évidemment un petit peu partout. Et à l'origine, c'est des lieux qui avaient été créés pour écouler une partie de la production des vins. Et ça a démarré à Strasbourg, et maintenant, dans tous les villages alsaciens, vous allez trouver une Weinstube.
Le vin?
Bah, incontournable. Alors, il n'y a pas toujours eu une bonne réputation, le vin d'Alsace, parce qu'on l'a longtemps considéré qu'il donnait mal à la tête, qu'il était trop sucré.
C'est trop soufré, c'est parfois un peu vrai. Il faut le reconnaître.
Il y a énormément de progrès qui ont été faits ces dernières années, et notamment, il y a une dynamique qui va vers des vins plus secs que ce que l'Alsace a produit, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, les vins sucrés ne sont plus vraiment à la mode, donc on recherche plus de minéralité, comme on aime dire aujourd'hui, de tension dans les vins. Il faut savoir qu'il y a quatre grands cépages nobles en Alsace. Le Riesling, on a parlé du Gewürztraminer, le Pinot, qui était appelé avant le Tokay, et le Muscat. On trouve aussi du Pinot Noir, 51 grands crus, aux noms tous plus imprononçables les uns que les autres.
Un petit pour nous?
Je ne sais pas, vous voulez le Schlossberg, l'Altenberg de Bergbitten, le Burg.
C'est tellement agréable à entendre.
Le Rottenberg, encore.
C'est meilleur à déguster.
Il y en a 51, si on a un peu de temps, on y va.
Merci beaucoup, Olivier. Dans un tout petit instant, tous les bons tuyaux de Jean-Bernard Carrier du Guide Lonely Planet pour découvrir l'Alsace. À tout de suite sur Europe 1.
Et si on partait tout l'été, Philippe Googler vous fait voyager sur Europe 1.